J'avais envie de revenir sur quelque chose que j'ai en tête depuis des années. C'était mes expérimentations dans d'autres pays, hein, donc très récemment en Équateur l'année dernière encore. Et puis là, c'était plutôt avec la chaire UNESCO à Abidjan en 2014, donc ça fait pile 10 ans. Et vous voyez ici un même enseignant stagiaire ou débutant qui sort de l'ENS d'Abidjan et qui est avec moi dans une activité d'enquête. Je ne suis pas inspecteur, je suis plutôt le chercheur formateur, accompagnateur dans une perspective compréhensive. Et puis vous avez, juste avant ou juste après, c'était 1 heure avant ou 1 heure après, un temps d'interaction avec son inspecteur formateur. Et je me permettrai juste, sans être trop schématique et caricatural par rapport à ça, regardez son positionnement, le corps parle, sa position parle d'une conduite d'enquête sur l'activité professionnelle. On voit qu'il y a une forme de rapprochement pour construire une forme de complicité commune, mais aussi d'intelligibilité commune de la situation, avec éventuellement tous les processus après de réélaboration ou de renormalisation de l'activité. Et puis, de l'autre côté, très clairement, c'était vraiment la culture ambiante du pays. Et là-dessus, dans mes propos, il n'y a pas de critique particulière, mais simplement le constat comme en Amérique du Sud, où les bonnes pratiques sont vraiment véhiculées de manière massive, une prescription de bonnes pratiques. Et vous voyez la fermeture, communication non verbale de cet enseignant stagiaire qui vraiment n'est pas dans la même attitude parce qu'on ne l'invite pas à la même chose. Alors, je suis pas en train de dire qu'il y a une bonne posture et une mauvaise posture, hein, ça serait très délicat de ma part de dire ça et très maladroit, mais c'est que ça oblige quand même à repositionner les bonnes pratiques ou les pratiques robustes. Le but, éventuellement, bien sûr, c'est d'arriver à voir comment on peut orienter vers plus d'efficacité et d'efficience. Bon, je sais pas si on n'a pas beaucoup, on met à chaque fois les deux mots, hein, l'efficacité par rapport à des objets tangibles de transformation dans la classe et l'efficience par rapport à l'économie de la personne pour pouvoir conduire, réaliser et venir en tout cas à ses fins ou à ses buts. Donc ici, je crois qu'on a ce double enjeu-là. Et si je le reprends sur mes, vous voyez, donc une sorte d'espace de dialogue pour essayer d'identifier ses pratiques, ses potentialités de faire autrement le métier, mais entre prescriptions, parce qu'on peut pas s'affranchir des prescriptions en France ou ailleurs, mais aussi des proscriptions, des choses qu'on ne peut pas faire. Et là aussi, il faut qu'il y ait des espaces encouragés entre ces deux bornes. Je crois que c'est aussi important de pouvoir, en tout cas, les identifier clairement. Et vous avez une responsabilité de ça quelque part. Je reprendrai ici ce que j'ai pu faire pendant assez longtemps dans mon Léa et Garcia Lorca, où ici on essaie de construire une culture commune professionnelle. Ici plutôt une collègue qui est professeure du second degré, qui a une quinzaine d'années d'expérience, voire plus, et puis une débutante, une néo-néo en français. Et en fait, dans ces verbatims, on retrouve des éléments assez intéressants pour construire cette communauté d'apprentissage et cet accompagnement du néo dans la communauté d'apprentissage, vous voyez, pour qu'il y ait une forme d'intégration progressive. Bien sûr, avec toutes les différences générationnelles de sensibilité d'acculturation. Je me reconnais complètement dans ce moment-là. C'est donc la collègue plus chevronnée qui est en train de reprendre une vidéo, on la voit pas, calée entre deux dictionnaires. Je me reconnais complètement, donc c'est une reconnaissance de situation professionnelle qu'elle a vécue elle-même ou qu'elle vit encore, et pour montrer qu'il n'y a pas un fossé énorme à ce niveau-là, mais qu'il y a des situations récurrentes dans l'établissement dans lesquelles tous les enseignants-enseignantes se trouvent. On est ici sur une collègue qui est à la fois accompagnatrice, mais aussi enseignante dans l'établissement. Des préoccupations convergentes. Là, tu dois t'épuiser. Bon, là, on voit qu'il y a de l'empathie, ou presque de la compassion par rapport à la situation même de la débutante. Tu dois pouvoir te préserver davantage. Et là, on voit qu'il y a aussi des éléments même par rapport à la santé, hein, et l'usure au travail, l'usure précoce des débutants au travail. Mais aussi, la collègue ne lâche pas le côté des enjeux scolaires, des enjeux curriculaires. Peut-être faut-il les impliquer autrement, parce que tes élèves, ils sont quand même dans cette situation-là, assez volatile. C'est aussi pour ça que tu as du mal à avoir une ligne de conduite et que les élèves sont pas suffisamment engagés. Donc, vous voyez, des questions, alors ça, pour moi, c'est toujours un de mes leitmotifs, hein, des questions de tenue de classe, hein, parce que j'ai fait partie de ces formations tenue de classe il y a plus de 15 ans, où on mettait des militaires et des instructeurs commando pour pouvoir retenir les classes, et c'était ça les bonnes pratiques. C'était pour moi de penser que, bien sûr, que pour pouvoir tenir une classe, il faut les engager dans le travail, il faut les enrôler dans le travail, et que le but, c'est plus d'engager, d'enrôler que d'endiguer, hein, et que c'est en tout cas avoir une appréhension très, très naïve de ce que c'est que de travailler dans ce genre de situation. Et après, de rechercher ensemble des situations efficaces et efficiences. On va pouvoir ensemble construire une séquence. Voilà. Et là, il y a un travail qui s'ouvre. Et puis, la collègue, on l'a filmé, enregistré, etc. Elle dit, ouais, c'est quand même super d'être embarqué dans cette perspective-là où on mène une enquête ensemble, on se donne des moyens, on regarde de l'activité réelle, il y a de la bienveillance. Il n'y a aucune évaluation sur du temps court. C'est toute la difficulté des stages courts. Hein, il faut tout de suite évaluer les stagiaires si on est en formation initiale. Voilà. Là, c'est une sorte d'accompagnement. Elle me connaît, elle connaît mes difficultés, elle sait que je ne suis pas à la hauteur de ce que je pourrais faire encore, mais voilà, il y a une forme de respect mutuel, mais aussi de complicité dans le travail et d'accompagnement dans un travail asymétrique, en tout cas en termes de ressources dans un premier temps. Maintenant, si je reviens à ces évaluations des outils, et je vais être vraiment après dans le détail de ces évaluations, hier on a joué un scénario, on a fait une instruction au sosie. Où on était sur une situation de référence, c'est plutôt l'observation en fond de classe. Et à partir de là, le but, c'était de prélever l'information par rapport à une séquence réelle qui est une situation récurrente chez Andy dans sa professionnalité d'accompagnateur, avec la question de savoir si on va revenir sur un élément saillant, c'est-à-dire, vous voyez, un pli de l'activité ordinaire, ou plutôt l'ordinaire du métier, sans rentrer dans des détails d'eux, même si, bien sûr, il y a des éléments qui reviennent vous interpeller, et qui correspondent à des éléments saillants sur un fond plus large. Et ici, il y avait donc l'instructeur et la sosie. Et en fait, le but, dans un premier temps, et j'ai fait exprès d'imager de la manière suivante, Frédéric, qui essayait de capitaliser, d'absorber vraiment tous les savoir-faire qui allaient lui être essentiels pour pouvoir être à la place d'Andy sans qu'on s'aperçoive de la substitution. Et donc ici, on est bien dans une instruction sosie où je capitalise le maximum. Vous voyez, j'ai mis des flèches en extension montrant que son référentiel et sa connaissance même de la situation n'est pas suffisante encore et qu'elle fait tout pour l'instruire et la documenter dans le détail de l'action. Donc ici, l'instruction sosie, c'est une fonction de transfert des règles de métier et potentiellement avec des éléments de réflexivité qui vont jouer mais qui sont seconds. Mettant à voir que bien sûr, lorsqu'on a fait cet exercice avec Andy, lui-même a pensé autrement ses situations professionnelles, s'est interrogé sur des éléments même qu'il avait complètement incorporés ou peut-être pas suffisamment conscientisés, aucune culpabilité de ma part, parce que dans l'urgence de la situation, on pense pas forcément à tout et puis on n'est pas tout le temps en méta, 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 cognition. Et donc ici, ce qui me semble intéressant, si on veut comprendre ce qui s'est joué dans la tête, dans l'expérience de ces deux protagonistes, on peut jouer. Alors, oui, pardon, on a appris, grâce en tout cas à ce protocole qui a duré une quinzaine de minutes, voire un peu plus, le protocole d'installation dans la classe avec des éléments intéressants. Alors, assez partagé par la communauté, mais parfois avec des variations liées à la propre sensibilité du collègue. Une observation attentive de la gestion de classe avec donc une focale ou des préoccupations de la part de l'observateur dans la situation. Et puis a émergé une tension par rapport au fait de partager ses notes avec l'enseignante. Est-ce qu'on doit avoir l'ordinateur ouvert avec la grille et puis le remplissage de la grille devant les yeux de la stagiaire? Ou au contraire, est-ce qu'il faut cacher? Et ça interroge bien sûr plein de choses sur la confiance, la transparence, sur la clarté des buts. Et on voit ici qu'il y a un thème de travail qui pourrait être partagé au sein d'un collectif. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que l'autoconfrontation, on vient de parler de l'instruction au sosie, j'espère que je suis assez clair dans cette diapo. De l'autre côté, je me suis amusé à faire deux bulles. Alors je l'ai dit, j'ai demandé aux auteurs de valider le fait que je pouvais mettre ça. Là, je suis à fond dans le jeu. Donc ça, c'est Frédéric qui parle en tant que sosie, totalement engagé pour capter la situation, prendre tous les repères, toutes les règles. Je ne lâche rien. Ça, c'est un peu moi qui l'ai mis. Mais on a vu dans la situation qu'elle ne lâchait rien, et ça me semblait intéressant de le remettre ici. Andy, j'étais pas forcément à l'aise au début pour comprendre comment utiliser le jeu et le tu. Je crois que ça a été en tout cas partagé par d'autres. Je me suis senti un peu en difficulté quand la sosie m'a demandé de citer une catégorie de la grille de Bourbao qui correspond aux modélisations des invariants de la conduite et de la classe. Je me suis senti un peu interrogé à un moment donné. J'étais pas préparé à ça, etc. Donc, peu importe. Mais c'est moi qui, à un moment donné, ai filmé 1 minute 50 de cette interaction pour essayer de comprendre également ce qui se jouait dans la tête de ces deux collègues, parce que ça me semble intéressant lorsqu'on met en place une instruction en sosie, de savoir les difficultés qu'on va retrouver régulièrement et de comprendre les enjeux même de compréhension de la situation et de ce que ça génère chez l'un et l'autre. dans cette situation d'autoconfrontation. Vous voyez qu'ici, on n'est pas dans une même situation. Si l'instruction au sens dit c'était un transfert de connaissances pour capitaliser des règles de métier, de l'autre côté, on était plutôt sur le fonctionnement du dévoilement, pardon, le dévoilement des vécus avec des émotions, des préoccupations, des dilemmes, mais qui sont aussi des éléments instructifs, me semble-t-il, pour vous, pour mieux comprendre la pertinence des outils et comment on peut utiliser ces outils-là. Voilà, c'est une façon de montrer qu'on peut articuler les deux et que spontanément j'ai eu envie de faire ces 3 secondes d'autoconf qui étaient vraiment pas bonnes et pour montrer qu'on pouvait aussi, si on est dans une situation de confiance avec les collègues, dire Andy, tu peux nous dire en quelques mots, tiens, je te refais voir les images, et Andy assez naturellement est passé d'une instruction au sosie à une autoconf en faisant une forme de débrief de son expérience, si on veut dire les choses autrement. Et ça s'est fait de manière assez spontanée. On a fait ce travail-là avec l'Académie d'Amiens de manière un peu plus étayée. Alors, vous avez compris, c'est beaucoup plus industrialisé, mais c'est intéressant de passer de l'intimité d'une classe ou d'une session de formation à voilà, une académie qui est en mouvement, ce qui n'est pas du tout au même niveau. Entretien d'autoconfrontation. Donc, on est ici maintenant sur Didier, dans la situation 2, qui, avec une collègue débutante dans la façon de conduire des entretiens d'autoconfrontation, va être ici dans l'expérience vécue et qui va faire en sorte de poser des questions, de guider Didier, donc l'inspecteur, pour qu'il revienne sur la situation d'entretien avec le collègue en accompagnement. Et donc ici, ce qui est intéressant, c'est de comprendre les mécanismes à l'œuvre pendant l'autoconfrontation. Et ici, en reprenant les verbatims, comme vous l'avez fait avec d'autres catégories, je retrouve assez rapidement des moments d'explicitation de son activité, où il est vraiment dans le je, maintenant, dans la situation, il est réengagé dans la situation, et puis des moments où il s'évalue, où il évalue la situation, et il est très critique, c'est une des propensions qu'il a aussi avec lui-même, il a ce niveau d'exigence faisant que très rapidement il rentre dans l'évaluation de lui-même, hein, de l'auto-évaluation, et puis ça lui permet aussi d'envisager de nouvelles perspectives de réflexion et de transformation, et ça apparaît très nettement dans ces verbatims-là. Donc ça donne ça au niveau des verbatims, juste quelques instants. Là, à ce moment-là, je suis un peu dans le vide. C'est un moment où je ne sais pas en fait. C'est bien aussi de voir un inspecteur qui doute, qui est ici devant une situation même professionnelle, avec toute l'expertise qu'il a, toute l'antériorité, toute la connaissance qu'il a des enseignants débutants ou des débuts de parcours, parce que je crois que c'est un jeune agrégé qui, voilà, qui est en titularisation. Et ici, il y a des moments de flottement aussi dans le travail et dans la situation. Et lui, avec authenticité, il dit, ben là, je doute, là, je sais pas là. Et c'est aussi assez intéressant de voir ça. Sur l'évaluation, ce qui me dérange dans ce que je vois là, c'est que je ne l'écoute pas. Là aussi, hein, pour un inspecteur, cette prise de conscience, elle est soit très singulière et culpabilisante, mais en même temps, voilà. Il y avait potentiellement une activité, alors à la fois culpabilisante vis-à-vis de lui-même, critique, mais aussi on peut imaginer que de ne pas suffisamment écouter les stagiaires, de ne pas partir d'eux, d'être assez rapidement dans une forme de précipitation par rapport à ce qu'on voudrait changer d'activité. Et pourtant, si je me souviens bien de l'ensemble du matériau, il était vraiment en train d'attendre et voilà, il voulait pas trop aller trop vite sur les pistes d'orientation qui freinaient son envie ou son élan par rapport au fait de vouloir donner son avis par rapport à la situation-là. Puis la transformation, si j'analyse ce que je vois là, j'aurais dû prendre une pause pour lui laisser exprimer ce qu'il avait à dire. Donc, simplement, ce tout petit bout de matériau montre que c'est de dire que on voit bien que c'est replonger la personne dans le lit de son expérience, dans le flux de son expérience, remettre des mots sur son activité. Là, je suis un peu dans le vide et c'est, vous voyez, il faut avoir ce niveau de confiance. Alors, quand c'est un inspecteur qui dit ça, c'est bien, mais quand c'est un débutant qui dit ça devant un formateur chevronné, c'est peut-être encore mieux parce que c'est encore plus courageux. Et puis après, bien sûr que ça génère de l'évaluation et de la transformation. Alors, l'autoconfrontation, si c'est vraiment un outil pour revenir sur des moments critiques d'un entretien et que ça passe à l'échelle de l'évaluation et de la transformation, c'est pas un problème. Mais ça veut dire qu'il faut peut-être aussi, et c'est un peu ce qu'on essaie de travailler, avoir un peu cette méta-réflexion ou en tout cas avoir conscience en ce qu'on mène en entretien, que hop, ça généralise. Hop, ça part sur des éléments qui sont plus dans l'action. Hop, ça part sur une forme de surévaluation qui peut inhiber le processus de réflexion aussi. Voilà. Alors, ce qui nous a intéressé après, c'est de pouvoir, avec les collègues, hein, qui étaient ce pool à distance, on n'a pas tous les écrans ouverts ici, on ne sait pas exactement, mais une quinzaine ou une vingtaine de personnes, il y avait en tout, je crois. de repérer un peu les avantages et les inconvénients des outils. Et je vous l'ai déjà fait dans la cartographie des outils avec un certain nombre de catégories. Parce qu'il me semble ici, je voudrais vraiment insister sur ce point-là, que c'est pas tant d'utiliser, enfin, on est un peu redondant, hein, j'en ai conscience, les outils de manière orthodoxe par rapport à une épistémologie la plus pure possible, si tant est qu'elle puisse exister. Vous avez vu, j'essaie de montrer ça dans mon premier exposé, que les chercheurs, ils bricolent, ils inventent, ils reprennent à leurs mains des outils en fonction de leur épistémologie. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit consistant ou congruent avec un cadre théorique. J'ai expliqué que Thoreau, c'était de la sémiologie, donc c'est de la signification dans l'action. On s'intéresse à la conscience préréflexive de Sartre. Et il fallait trouver un moyen de pouvoir attraper cette conscience préréflexive, ou des fragments d'eux, dans ce flux dynamique de l'activité qui se joue, pour pouvoir, à partir de là, comprendre l'activité avec sa phase visible et invisible. Ok. Vous êtes formateur, vous pouvez avoir d'autres visées. Ce qui pose bien sûr la question de savoir quelle va être la part de la compréhension, de la transformation, et qu'est-ce que vous avez aussi comme temps long, court, pour pouvoir opérer des transformations. Parce que si vous n'avez que 30 minutes sur une vidéo, voilà, qu'est-ce qu'on peut obtenir en 30 minutes de vidéo? Si vous avez un stagiaire sur une année et que vous allez pouvoir, pendant 3 mois, travailler sur des mises en mots, sur la réflexivité progressive, revenir sur des moments stratégiques de son activité, accepter de plus en plus que lui-même prenne la parole et prenne la conduite même de ce qui se joue, ça change tout, quoi. On n'est pas dans les mêmes temporalités, on ne va pas avoir les mêmes usages des outils. Et ce qui m'intéressait, c'est de voir comment les collègues, vous voyez, dans une forme de conception continuée dans l'usage, c'est-à-dire qu'on propose des outils, vous connaissez les outils, puis les sources de référencement sont quand même assez importantes maintenant, comment vous les remettez à votre main? Qu'est-ce qui vous semble plutôt de l'ordre de la visée compréhensive ou transformative? Quelle est l'utilisabilité, etc. Et c'est pour nous très intéressant d'avoir ça pour peut-être reconcevoir ces outils ou proposer des modus operandi qui soient encore plus en phase avec votre propre façon de vivre ces outils-là. Je veux travailler par exemple sur les consignes, la délivrance des consignes. Et dans un premier temps, j'opère assez rapidement avec mon petit groupe qui sont un groupe non pas de formation initiale mais de formation continue, formation initiale différée. On est plutôt sur la transition avec plutôt des néos qui ont entre 1 et 5 ans d'expérience. On fait jouer une situation d'instruction sosie. Dès qu'on a compris le jeu tue et que ça joue, assez rapidement ça démarre. On peut même en voir 4 ou 5 à la suite pour voir aussi des sensibilités différentes, des orientations différentes par rapport à la consigne. Ça, c'est un exercice qui est facile, qui ne coûte pas grand-chose. Et tout le monde va en tout cas pouvoir se saisir de sa propre expérience et s'interroger sur son activité à l'aune des instructions. À partir de là, on peut aller observer une situation professionnelle sur une BSD, sur une banque ressources, etc. Faisant que la première instruction a commencé à outiller le regard par rapport à des éléments à repérer dans l'activité. Et donc on peut imaginer que l'allocofrontation qui va être faite à la fin, non, à la suite, ne sera pas complètement détachée de ces orientations qui auront été préalablement construites par l'instruction au sosie. Ce qui peut permettre après, ben ça donne une autre perspective à l'observation croisée cette fois-ci. C'est-à-dire qu'en gros, on peut aller voir des collègues, toujours sur la thématique de cette prise de consignes ou de consignes qui à la fois sont des consignes collectives, individualisées, avec des services après-vente, avec des élèves qui réemploient la consigne. Bon voilà, on peut jouer sur toutes les variations de la consigne. Et donc observer un pair dans la situation professionnelle, non pas sur une heure, mais sur cette délivrance de consignes, particulièrement parce que c'est le chantier ouvert avec mes collègues. Et donc vous voyez que l'observation que j'ai beaucoup critiquée moi dans mon propos là, hier, elle peut avoir du sens parce qu'elle a été outillée par un certain nombre d'éléments même et de réflexions qui ont construit les fondations même de l'observation. À partir de là, on peut mettre en place un débriefing, alors, attention avec vos acronymes bizarres, mais une observation où on va capter 3 minutes de la séquence de consignes. J'avais des collègues dans les établissements dans lesquels j'étais qui disaient « Je viens te voir sur quoi aujourd'hui? Sur ça? Ok, mais alors je reste juste pendant 10 minutes et puis après je repars. J'ai du travail, hein, je suis pas là pour t'observer. » Entre pairs, entre collègues là, hein, donc c'est pas formateur, formatrice. Et donc en fait, c'est saisir un thème en particulier et puis de faire une analyse conjointe entre pairs de ces situations-là en disant « Et là, qu'est-ce que tu prends comme élément? Comment tu fais? » Voilà. Donc on est sur un entretien débriefing flash, où on va décrire l'activité, comprendre les intentions, parce que lorsqu'on donne une consigne, on n'a pas forcément les mêmes intentions. Là aussi, il faut prendre ce temps de déplier l'activité pour pouvoir à la fois l'évaluer en termes de pertinence et puis éventuellement de gradient, d'évolution de cette propre activité. À partir de là, on peut imaginer que plus précisément, on aille filmer et faire un entretien plus avec un formateur. Donc, vous voyez, alors il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux, mais le débriefing flash et conjoint entre pairs, c'est peut-être entre collègues professionnels qui sont en co-observation. Et puis là, c'est avec un formateur ou un inspecteur qui a aussi peut-être un peu plus de maîtrise de la situation. Et puis après, lorsque le travail a été fait, comme je l'ai dit, en solo, on peut le faire avec des collègues. Et ça m'arrive comme ceci, sur une journée, d'avoir des collègues qui acceptent qui se sont entraînés dans la journée à faire ça et qui vont passer à la fin une néo qui passe en anglais devant tout un groupe d'une quinzaine de personnes avec des CPE, avec le chef d'établissement qui a demandé l'autorisation de venir. Et avec notre déontologie, j'ai arrêté le chef d'établissement à la porte en disant, attendez, excusez-moi. Est-ce que vous êtes d'accord? Et puis j'en avais parlé bien sûr préalablement à la collègue qui allait montrer son activité. Ok, tout le monde est d'accord, vous pouvez rentrer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est le collectif quand même qui pose des règles d'écoute et de bienveillance et de respect et de protection des personnes. On n'est pas dans une situation critique, on est dans une situation de travail sur le travail. Le chef d'établissement passionné par des questions pédagogiques peut être là, mais peut être aussi mis à l'écart pour pouvoir préserver cet espace entre pairs. Ces outils d'analyse du travail, ils ont, voilà, je pense qu'ils ont une vraie consistance, une vraie robustesse. Vous avez vu que ce n'est pas si simple que ça. Il faut se les approprier. Il faut du temps. Il y a des choses qui ne vous ont plu, pas plu. Il y a des collectifs aidants et d'autres qui ne vont pas l'être. Il y a encore des collègues qui ne comprennent pas. Et voilà, il y a tout un travail, mais on voit qu'il y a une transformation forte. Je parlais de la DGESCO au plus haut niveau de la centrale, hein, par rapport à la possibilité d'outiller les formations avec ces approches analyse du travail. Donc là aussi, hein, sur une approche lesson studies avec cette cyclicité, co-conception, co-observation, ces moments de débriefing, de culture commune, on peut trouver des niches et des moments particuliers où on va pouvoir outiller cette conception du travail dans une approche collective et collaborative avec des enquêtes et éventuellement mettre ces outils au service de l'enquête avec des plus-values en n'étant pas dans une approche de la vidéo comme une finalité, mais vraiment comme un moyen potentiel, avec des traces d'activité qui sont des traces à l'enquête. Et j'insiste, et peut-être que j'ai pas insisté assez sur les enquêtes, sur les élèves, et que tous ces outils-là peuvent bien sûr conduire à vraiment être au plus proche des élèves, de leur activité, de leurs écrits. Voilà, ma conclusion, elle va être la suivante, un peu de vigilance critique, mais c'est aussi à toutes les personnes qui pourraient éventuellement faire de la vidéo formation une nouvelle tendance rapide qu'on mettrait en place partout de manière systématique sans préserver les personnes, sans être attentif aux effets délétères. Et si les usages de la vidéo formation qui ont fait leur preuve quand même à grande échelle devenaient des usages très critiques avec de la violence, de la manque de protection des personnes, et si on n'est pas dans une approche développementale et constructive, on va faire plus de dégâts avec que de bienfaits. Et assez rapidement, ben, il n'y aura plus la confiance nécessaire par rapport à ça. Les INSPE ou les instituts vont en tout cas se détourner de ce type de technologie parce qu'il y aura eu trop d'abus et on va se retrouver dans une situation de retour à la norme prescrite sans rentrer dans le détail de l'activité professionnelle. Donc vigilance, et je pense qu'on a tous une responsabilité pour à la fois être vigilant et s'embarquer avec ces outils de métacognition ou de méta-évaluation pour repérer les effets produits. On ne fait pas de la recherche scientifique ici, mais on fait de la conception technologique embarquée avec des outils qui ont des présupposés théoriques et épistémologiques, et qu'on essaye d'avoir une vigilance critique par rapport aux effets générés. Et qu'il faut qu'un pool comme un mien et toujours cette conscience des effets que ça génère, et puis d'avoir bien sûr en tête des retours d'expérience pour voir jusqu'où on va par rapport à ça et jusqu'où on peut aller. Donc il n'y a pas d'idéal méthodologique, et vous voyez qu'on n'est pas capable de vous dire c'est ça qu'il faut faire. C'est un vaste chantier. Vous avez des compromis à opérer entre le temps que vous pouvez y passer et puis le temps imparti de l'institution. Je suis aussi très... Enfin, voilà, il y a une sorte de paradoxe total, c'est on voudrait des transformations immédiates en termes de professionnalité, transformation comme si on avait une baguette magique. alors qu'il faut des années pour changer sa pratique professionnelle. Donc voilà, accepter les temps longs, accepter que tu n'auras pas forcément. Il vaut mieux se maîtriser des outils plutôt que d'utiliser 15 outils de manière un peu à l'aveugle. C'est un peu des questions qui me semblent importantes. Donc tenir ces compromis entre les contraintes sociales, institutionnelles et organisationnelles. Et bien sûr, et par rapport à votre appétence aussi à vouloir utiliser ou non ces outils. Et d'autres, parce qu'il y en a plein d'autres qu'on n'a pas identifiés aujourd'hui.